Vous écoutez
RMC.
RMC.
À Olysée, avec la confiance en plus, la bonne passe. Allez. La bonne passe pour Mbappé.
Voilà.
Kylian Mbappé ne doute jamais. Avec Mbappé, Mbappé, Mbappé la frappe. But. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Kylian Mbappé. But. Quel but exceptionnel.
RMC After Live Intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'After Live Intégrale Coupe du Monde en direct du Dopo ce soir avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et avec un duo de choc, Eric Dimeco et Jean-Michel Larquet.
Oula.
Bonsoir messieurs.
Bon. Salut Pierrot, salut. Bonsoir, Daniel. Salut Jean-Michel.
C'est une grande soirée de Coupe du Monde, c'est une grande soirée de foot, c'est un quart de finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc. Coup d'envoi à 22h à Boston, à Foxborough exactement, au Gillette Stadium, où on va retrouver dans un instant Jean-Louis Tour. Un quart de finale de Coupe du Monde, c'est quand même pas pareil Eric, hein. C'est une grande soirée qu'on va vivre. Est-ce que vous avez toujours ce frisson de ces grands matchs avec votre expérience là, Eric et Jean-Michel, est-ce que ça vous fait toujours kiffer tout ça?
Non, tu penses qu'ils ont tout vu, ils ont tout fait,
ils ont
plus d'émotion? Tu penses que ce sont des hommes avec un cœur de pierre?
Je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question.
On a tellement d'expérience qu'on peut, on peut pas vous parler de ce que l'on n'a pas connu, puisque je pense qu'Eric n'a jamais joué un quart de finale de Coupe du Monde, et Jean-Michel non plus. Donc voilà, nous sommes des néophytes. Mais on ne désespère pas, Pierre. Hein, on ne désespère pas, mais pour
non,
l'instant, c'est une émotion que l'on ne connaît pas, mais on va la vivre par notre équipe de France interposée.
Ah, l'émotion, c'était surtout de l'observateur, de celui qui vibre devant le football, plus que de celui qui a participé. Sinon, il y a aucun de nous peut discuter. Sinon,
oui. Non, mais Pierrot, pour répondre à ta question, le jour où j'aurais plus envie de regarder ces matchs-là, où je frissonnerais plus au moment de regarder ces matchs-là, ben je ferais autre chose. Voilà, j'irais aux champignons, au golf.
C'est ce que tu fais d'ailleurs de temps en temps. Non, mais c'est aux champignons.
C'est plutôt si vous me permettez de poser la. Daniel. Si vous me permettez de poser la question autrement, c'est que justement, vous savez, quand parfois on nous dit qu'on regarde une tonne de matchs dans une saison et que forcément parfois on est un petit peu moins enthousiaste sur des matchs de journée de championnat ou des premiers tours, ne serait-ce que dans cette Coupe du Monde, quand au début on disait oui, bah forcément France-Irak, ça emballe un petit peu. C'est justement parce qu'on aime ranger, qu'on aime classer, qu'on aime sélectionner et qu'on aime le meilleur que là l'excitation est en train de monter. Que là, depuis les huitièmes de finale où on a vu des matchs complètement fou, évidemment le meilleur a été Argentine-Égypte, mais le Mexique-Angleterre, et là maintenant c'est notre équipe, équipe de France, dans un quart de finale contre le Maroc. Là oui, évidemment que l'excitation elle est en train de monter, qu'on est en train, je sais pas si, parce que c'est tous les 4 ans on oublie, mais la Coupe du Monde c'est unique. La Coupe du Monde c'est un sentiment qui est unique, ça rassemble beaucoup plus de gens et ça mêle encore plus de sentiments.
Et Eric. Puis Daniel, on réagit souvent sur des matchs. Alors je veux pas dénigrer notre Ligue 1, mais qui sont moyens pour kiffer quand c'est
exactement ce Eric.
Ligue, bien Ligue des Champions, pareil, parce que Ligue des Champions pour moi, je pense que la Ligue des Champions quand tu arrives au bout, c'est le plus haut niveau, c'est même plus haut niveau que l'équipe de France, que la Coupe du Monde ou les équipes nationales, parce que les mecs sont ensemble pendant des mois et avec un jeu beaucoup plus léché. Donc
en termes de football, oui, mais en termes d'émotion, rien ne surpasse.
D'émotion, voilà. Oui.
Ça rassemble plus de gens, ça rassemble beaucoup plus de gens en fait.
Voilà. Bien sûr.
Alors la grande soirée de foot,
parce que j'imagine que la finale de la Ligue des Champions, elle a pas motivé Eric, tu vois.
Avec Roten.
Ah, je l'ai pas vu. Pourquoi il s'est passé quoi cette année, Daniel? J'ai pas vu d'ailleurs. Justement.
Ah, mais cette année, tu l'as regardé, je crois, Eric, quand même, non?
Parce c'est ça,
non,
c'est ça rassemble. Là, ça nous rassemble tous les deux, tu vois. Alors
c'est
que
vrai,
le 31 mai, on n'était pas rassemblés. Toi, t'étais aux champignons et pas moi.
Exactement. Voilà.
Et la grande soirée continue donc en direct de Dopo, le resto de l'After Foot, jusqu'à 2h minimum. Hein. On peut jouer la prolongation, évidemment. Alors une prolongation, on espère y échapper. On espère que l'équipe de France se qualifie avant la prolongation. Évidemment, on vous attend au 32-16 pour cet avant-match. On va retrouver tout de suite au Gillette Stadium la voix du foot sur RMC. C'est Jean-Louis Tour.
Le porte-bonheur, la mascotte.
Salut Jean-Louis.
On est là. Salut Pierrot, salut là. Daniel, Jean-Michel, Eric, salut tout le monde.
Oui. Alors, besoin de me demander mon niveau d'excitation.
Bonjour.
Le point météo tout de suite, Jean-Louis.
Ah, il fait chaud. Là, il fait chaud. Il fait une trentaine de degrés, plein soleil. Il n'y a pas une zone d'ombre sur la pelouse du stade. Donc, ça va être peut-être en ressenti une des plus grosses chaleurs parce qu'il y a eu contre le Paraguay, le thermomètre était plus haut, mais il n'y avait pas ce soleil accablant. Donc, ça va être quand même une donnée importante, même si à partir du coup d'envoi et jusqu'à la rencontre, ça va diminuer bien sûr les températures et il y aura peut-être un peu de zone d'ombre. Le soleil va derrière nous s'abaisser derrière la tribune. Donc, ça, c'est pour le point météo.
Dans deux heures, il sera.
Il y a toujours les postes fraîcheurs hein, quand même. Hein,
il y a
toujours
voilà. Ah, il y aura les postes fraîcheurs, bien sûr.
Ah, bah d'accord, bah, ça, on y sauve.
Alors, on va rentrer dans cette rencontre avec Jean-Michel, avec Daniel, avec Eric et avec vous, bien sûr, au 32-16. Vous appelez pour participer, bien sûr, à tous nos débats et notamment sur le jeu. On va présenter ce quart de finale. C'est d'ailleurs, tiens, on le précise, c'est un stade de la compétition qui nous réussit plutôt puisque ce sera quand même le 9e quart de finale de l'histoire des Bleus. Et on s'est imposé 6 fois lors des précédents. C'est plutôt en demi qu'on avait un plafond de verre qui s'est brisé, évidemment, pour notre plus grand bonheur, avec notamment ce titre en 98. Alors, Jean-Louis, on n'a pas encore les compos officiels. En revanche, on a des infos assez précises. Et la tendance, c'est que Désiré Doué démarre sur le côté gauche de l'attaque française à la place de Bradley Barcola.
Exactement, Pierrot. C'est ce qui a été travaillé hier lors du dernier entraînement à la Bentley University. Ça, on peut vous le confirmer. Il était avec les titulaires, Désiré Doué. Donc, pour compléter le quatuor offensif avec Olise, avec Mbappé et avec Ousmane Dembélé. Pour le reste, au milieu de terrain, a priori, ça aussi, ça doit être confirmé. Mais nos infos, c'est qu'Aurélien Tchouaméni sera remplaçant. Même s'il s'est entraîné avec le reste du groupe hier, ce sera la paire Manu Koné et Adrien Rabiot au milieu de terrain. Tchouaméni qui se ressentait d'une douleur aux adducteurs il y a quelques jours, donc qui manquerait un peu de rythme pour débuter ce soir. Et puis derrière, par contre, là, il n'y a pas de surprise avec Digne à gauche, Upamecano, Saliba dans l'axe, Koundé à droite et Maignan dans les buts. On attend l'officialisation d'ici une petite demi-heure de ces compos d'équipe.
Tu comprends ce choix, capitaine? Doué plutôt que Barcola?
Écoute, je pense d'abord que, a priori, on a peut-être que Doué fait moins de complexes face à Achraf Hakimi. Il me semble que c'est une donnée du choix de Didier Deschamps et peut-être aussi que le profil de Barcola, qui est quand même un homme qui aime la profondeur, qui aime la vitesse, qui aime les ballons dans l'axe, je pense que ça correspond moins peut-être à ce que prévoit Didier Deschamps, parce que entre ce qu'il prévoit et ce qui va se réaliser, on n'en sait rien. Et puis il y a photo, même si j'avais ces derniers temps une petite préférence pour Barcola. Mais bon, Doué, techniquement, amène beaucoup dans les dribbles. Et évidemment, on imagine peut-être un tout petit peu qu'il y aura une légère domination française dans cette rencontre et que les dribbles de Doué seraient peut-être plus à même de déstabiliser la défense marocaine que les courses en profondeur de Barcola.
Eric, t'es d'accord avec ça?
Écoute, moi je suis. On n'est pas là pour aimer, pas aimer les choix. On est là pour les commenter. Moi je suis étonné dans le sens où on va être d'accord, je pense, pour dire que Barcola c'est un joueur de profondeur. Il lui faut de l'espace derrière, dans le dos de la défense adverse. Et Doué c'est plus si tu les mets vraiment en concurrence, hein, parce que j'ai l'impression que dans l'esprit de Didier ils sont à 50-50, c'est-à-dire que on va les voir. Souvent partager peut-être même des matchs, ce qui s'est passé depuis le début de cette compétition. Et si tu veux, contre le Paraguay, on pouvait tous être d'accord pour dire qu'on allait avoir le ballon et qu'ils allaient nous attendre. On les connaissait peu, on les avait vus contre les Allemands, on les connaissait ou non.
Raison.
Voilà. Oui, donc mettre Barcola quand il n'y a pas de profondeur, bizarre, j'aurais préféré Doué peut-être. Alors que, comme Jean-Michel, depuis le début de la compétition, j'ai une préférence pour Barcola. Et mettre, du coup, ne pas mettre Barcola, parce que Doué, il est capable de tout faire. Donc, mais ne pas mettre Barcola dans un match où on aura peut-être un peu moins le ballon et où on a un adversaire qu'on nous présente comme être capable de rivaliser, qui va nous regarder droit dans les yeux, qui va peut-être même au milieu de terrain gagner la bataille. Je l'ai entendu, hein, c'est pour ça que je dis ça. Je trouve ça bizarre, mais attention, c'est juste sur le choix du profil que je parle.
Moi, j'ai une autre théorie, si je peux me permettre.
Tu peux.
je après vous pouvez me dire que ça n'a aucun sens, hein, mais je pense que Deschamps a un raisonnement à l'inverse, c'est-à-dire que je pense qu'il raisonne plus sur la dernière demi-heure et surtout sur celui qui va rentrer à ce moment-là. Je pense que contre le Paraguay, il s'est dit que dans cette dernière demi-heure, c'est là où peut-être il y aurait un peu plus d'espace parce qu'il y a fatigue des Paraguayens, etc., et que quoi qu'il arrive, le bloc aurait été regroupé, et c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, il était bien content d'avoir Désiré Doué qui rentre avec Barcola qui a déjà fatigué un peu tout le monde, et d'ailleurs il a obtenu le penalty. Et je pense que là, il se dit que Barcola, contre une équipe qui joue un peu plus, dans la dernière demi-heure, il aura encore plus d'espace parce qu'il y a un peu de fatigue et parce que c'est des moments du match où, par exemple, Hakimi monte énormément. Et peut-être qu'avec Barcola, voilà, dans la dernière demi-heure, ça l'empêchera de le faire.
Ça, c'est pour ne pas aller dans ton sens, hein, Jean-Louis. C'est-à-dire qu'on a quand même un défenseur latéral qui est extrêmement offensif et qui, évidemment, demande à son adversaire de revenir pour le contrer. Mais c'est un joueur aussi qui prend beaucoup de risques, hein, Hakimi, et qui laisse souvent sa défense à deux ou à trois. Donc, on pourrait aussi considérer que Barcola aurait un rôle à jouer, un rôle essentiel à jouer.
Et je pense que dans la dernière demi-heure, il aura un rôle plus important à jouer avec plus d'espace.
Oui, mais... Non mais tout s'entend, hein. Attention, Didier, quand il met Doué à la place de Barcola, c'est que il a une idée précise du match qu'il veut voir, voire même peut-être du travail défensif de ce garçon-là dans ce couloir-là aussi par rapport à Hakimi, parce que il y a pas n'importe quel joueur en face, donc tu peux aussi peut-être t'adapter même si tu es l'équipe de France. Sauf que Jean-Louis, moi j'aime malgré tout que on récompense le mérite, c'est même pas le mérite parce que Doué a obtenu le pénalty, ça voudrait rien dire, mais à un moment donné c'est bien aussi que dans cette bataille là entre les deux qui a eu lieu depuis le tour de poule, on a compris que ils étaient en concurrence et il y a eu 3 ou 4 matchs où ils ont alterné les deux, on est d'accord, donc à un moment donné on avait l'impression que Barcola se détachait dans un match où toute l'équipe a été en difficulté entre guillemets parce que l'adversaire ne proposait rien pour pouvoir jouer, tu le sors, tu vois, je trouve ça, je pense qu'en arrivant de plus en plus proche de la finale, c'est bien d'avoir des garçons qui sont en confiance, qui sont débarrassés de la concurrence, je vais dire, pour être un peu plus libérés. Alors après, j'ai l'impression que ces gamins, ça leur pose pas de problème,
là,
puisque là, je crois qu'ils rentrent, ils sont décisifs.
Ils ont accepté que ce sera comme ça jusqu'à la fin de la compète, mais pas de souci là-dessus.
Non, mais bien sûr, mais ils sont décisifs chaque fois qu'ils rentrent, donc il y a pas de souci. Mais voilà, mais c'est sûrement Didier qui va avoir raison encore une fois, les gars.
Daniel, sur Doué Barcola.
Je vous ai écouté tous les trois et la vérité, c'est que je pense que c'est une vraie fausse information qui est titulaire entre les deux, parce que depuis le début de la compétition, à chaque fois qu'on a cru que l'un jouait parce qu'il avait des qualités à exploiter dans tel et tel match, c'est le contraire qui se passait. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, ils se partagent totalement les matchs et que contre le Paraguay, on pensait que c'est Doué qui allait jouer. Et c'est Barcola qui a joué alors qu'il n'y avait pas de profondeur. Doué est entré, a provoqué le pénalty. Et à chaque fois, les deux ont apporté quelque chose de très positif. Donc ça veut dire que la gestion de Deschamps de ce poste-là et de la façon dont ce poste-là est partagé entre ces deux joueurs, pour l'instant, ça tourne. Pour l'instant, c'est même parfait. Donc je pense qu'ils vont continuer ce soir. Eric a apporté un élément qui, à mon sens, est important. C'est qu'il ne va pas falloir seulement attaquer, mais que quand tu as Hakimi de ce côté-là, il va également falloir aider tes défenseurs et défendre. Et que peut-être que oui, Doué de ce côté-là court un petit peu plus, il y a une plus grosse activité. Et encore en le disant, j'en suis même pas sûr.
Oui, je suis pas d'accord, moi d'ailleurs.
Il est également généreux.
Je pense que Barcola est plus discipliné.
Donc au final, moi je pense qu'ils vont continuer à se partager le match, qu'ils ont des qualités, même si elles sont différentes, qui se complètent à l'intérieur d'un match et que Deschamps s'adaptera en fonction de ce qui se passe dans la partie. C'est le seul poste qui, depuis le début de la compétition, est comme ça partagé. Pour le reste, on a un 10, un 9, un 10 qui est assez clair. Ce poste-là ne l'est pas. Bon, est-ce que ça pose problème au bleu ? Absolument pas. Tout va bien.
Voilà. Après, ça va continuer. En effet, que la gestion de ce poste-là réussit plutôt bien à Didier, parce que chaque fois qu'il y en a un qui rentre sur ce poste-là, il est décisif. Si je me souviens bien, Barcola doit rentrer marqué sur le premier match. Il doit jouer derrière Doué, si je me rappelle bien, il doit être décisif aussi dans le match après. J'ai l'impression que sur chaque match, pratiquement, le rentrant est décisif. Donc peut-être que lui, il se dit, tiens, J'ai deux garçons, quoi qu'il arrive, si celui que j'ai mis titulaire a un peu de mal ou en tout cas est bien bloqué, celui qui va rentrer va me faire la différence parce que il a un super état d'esprit et parce que il va rentrer dans un match peut-être plus facile que le titulaire.
Et il va apporter sa fraîcheur.
C'est ça.
Tu sais, c'est le vieux commentaire qu'on disait il y a 30 ans, c'est on fait rentrer l'homme frais ou un homme
de Jean-Michel. Pourquoi tu dis de Jean-Michel?
Pourquoi tu me regardes en disant ça? J'y ai pensé un petit peu, mais mine de rien, non seulement c'était vrai, et deux, là on en comprend tout le sens. Oui, tu fais rentrer un homme frais, qui a des jambes fraîches et qui peut faire des décisions. C'est exactement ce qui s'est passé avec Doué contre le Paraguay. L'homme frais est entré, les jambes étaient bonnes. Il a obtenu le pénalty en provoquant.
Jean-Louis, voilà. On aura les compos officiels, je pense, d'ici une demi-heure. Hein.
Mais un peu moins, point, même, je pense, quand même. Ouais.
Un peu moins. Bon, il y a un autre point important, c'est de l'autre côté, hein, côté marocain, puisque Saïbari ne jouera pas cette rencontre. En tout cas, il ne va pas démarrer, exactement. Ça c'est certain.
C'est ce qu'a dit Mohamed Ouabi hier, le sélectionneur, en conférence de presse. Il a dit il n'est pas forfait pour le tournoi, mais pour demain, ce sera trop juste. Ça m'étonnerait que ce soit un coup de bluff de sa part, même si on va quand même surveiller ça sur les compos d'équipe. Mais a priori, oui, il sera remplaçant. C'est Raimi qui devrait rentrer à sa place, lui qui a été plutôt pas mal hein, depuis le début sur ses entrées. Notamment, il a marqué contre Haïti le match où Ouabi avait fait un peu tourner. Mais c'est quand même Saïbari qui apporte beaucoup de garanties. Il marque contre le Brésil lors du premier match et surtout c'est un ancien milieu de terrain reconverti attaquant, donc dans le jeu de possession que voulait installer Ouabi, c'était bien d'avoir une sorte de faux neuf avec Saïbari, donc ça change un peu la façon de faire pour le Maroc.
Jean-Louis, merci. Dès que tu as les compos, évidemment, tu reviens.
Bien sûr.
Pas de souci, tu nous interromps. On va descendre de quelques dizaines de mètres là, par rapport à la position de Jean-Louis pour aller sur la pelouse retrouver Valentin Jamin au Gillette Stadium de Foxborough parce que les Marocains sont en train de reconnaître la pelouse. Valentin.
Tout à fait. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Et ils sont arrivés en groupe. Hein. Des fois, on sait que les joueurs arrivent au compte-gouttes. Certains ne vont même pas reconnaître la pelouse. Là, tout l'effectif marocain est sorti avec short ou pantalon marron, t-shirt beige. Et donc, voilà, c'est vraiment en équipe que les Marocains sont venus reconnaître cette pelouse. Ils sont dans le rond central et vous parliez de Saïbari. Il est là, alors non pas en crampon, bien évidemment. Hein. Pour le moment, d'ailleurs, personne ne l'est. Mais il est quand même avec ses coéquipiers. Il était notamment avec Asdine Ounahi en train de rigoler. Il avait le sourire, Ismaël Saïbari qui est annoncé forfait. Donc première discussion, les Français eux sont également en train d'arriver, là leur bus est en train d'arriver, mais les Marocains sont les premiers à fouler la pelouse du Gillette Stadium. Et une indication quand même, quand je regarde autour de moi, il y a beaucoup beaucoup de rouges et je pense que ces Marocains vont être très très soutenus, notamment par la communauté marocaine ici.
Ils vont être à domicile donc à Boston les Marocains. Juste un mot là-dessus quand même sur la décontraction apparente, en tout cas revendiquée par le sélectionneur Mohamed Ouabi. J'ai l'impression que c'est un des atouts de cette équipe par rapport à il y a 4 ans. C'est qu'il y a 4 ans c'était la sensation et aujourd'hui c'est une équipe qui me paraît beaucoup plus mûre et beaucoup plus capable d'assumer, de performer à ces hauteurs-là. Je sais pas si t'es d'accord avec ça Eric, mais il me semble beaucoup plus mature de ce point de vue-là. Là je parle pas du tout du jeu hein, qui est très différent d'il y a 4 ans.
Ça s'appelle l'expérience, Pierrot. Enfin, quand tu fais.
Ouais, mais ça me paraît évident dans tout ce qui dégage en conférence de presse, dans les matchs. Ça me paraît assez évident, non?
Oui. Oui, oui, mais
il est pas convaincu, il a raison.
Non, mais quand tu fais une demi-finale de Coupe du Monde et que tu fais une finale de CAN, alors on ne sait pas s'ils auront gagné ou non. Hein, c'est le mystère du football de cette saison ou de cette année. Mais et que tu arrives en quart de finale de Coupe du Monde, ça veut dire que tu as des certitudes malgré tout. Même s'il y a eu un changement de coach, j'ai l'impression même que le changement de coach a donné un souffle nouveau à cette équipe-là, voire une identité de jeu un peu plus séduisante entre guillemets. On verra hein, ce que c'est, il va se passer contre nous, mais moi je comprends qu'il dégage une certaine sérénité entre guillemets. Enfin, si c'était ça ta question Pierrot.
Non mais tu sais, j'ai regardé pas mal les conférences de presse notamment de Mohamed Ouabi, je trouve qu'il apporte quelque chose de plus par rapport à Regragui qui était très bon hein, sur l'aspect com, mais c'est qu'il leur donne un supplément de confiance je trouve.
Déjà il récupère un groupe construit par Regragui dans lequel il apporte sa personnalité, il y a une continuité, le travail de fond avait été fait avant, lui il arrive avec sa personnalité, un jeu clairement identifié, une ambition. Maintenant Je pense qu'ils sont tous conscients que c'est un énorme adversaire qu'ils ont en face. Moi, pardonnez-moi, mais j'ai beau retourner le problème dans tous les sens et croire à la magie du foot et en foot tout est possible et machin et tout ça.
J'ai du mal à voir
un joueur au Maroc qui pourrait être titulaire en équipe de France. Hakimi Mazraoui, les latéraux.
Bounou.
Et c'est tout.
Bounou, peut-être.
Non, Bounou n'est pas meilleur que Maignan, non. Non, il n'est pas meilleur que Maignan, c'est
tout.
Donc j'ai raison, Daniel, parce que ce joueur-là...
J'ai entendu des délires sur cette histoire-là. Il y a un moment donné où on mettait des milieux de terrain du Maroc dans notre équipe.
Non. Donc, je pense que les Bleus sont supérieurs. Ça n'enlèvera rien à tout ce qu'a fait le Maroc et à tout ce qu'on pense d'eux en positif. Et à un moment, il va y avoir un rapport de force. Et ce rapport de force, avec la confiance, je pense que les Marocains ont parfaitement les capacités de regarder les Bleus dans les yeux. Mais le quatuor offensif des Bleus est plus complet. On a quand même... dans l'attaque du Maroc, 2-3 lacunes que j'ai du mal à voir.
C'est le troisième avant-centre qui joue.
Non rédhibitoire, quoi. Voilà.
C'est exactement.
Ça me semble assez rédhibitoire, quoi. Les problèmes de la ligne offensive de Maroc.
Après le forfait de Saïdari qui intervient après le forfait de Zazouli, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup pour une équipe comme le Maroc. Cela dit, moi je pense qu'effectivement, la décontraction n'est qu'une décontraction apparente. Enfin, moi, il m'est arrivé de jouer à intervalles réguliers des matchs importants et qui avaient le même caractère. Par exemple, deux finales de Coupe de France consécutives, je peux vous dire que la deuxième, j'avais aussi autant le trac-vire
que la première.
Bon, là, ils savent qu'ils n'ont... Ils sont dans leur position d'outsider. Je ne vais pas dire qu'ils sont décontractés et qu'ils n'ont rien à perdre. Mais c'est exactement une équipe qui a d'abord réussi son mondial. Est-ce que le Maroc aujourd'hui a réussi son mondial ou pas ? Oui, incontestablement, le Maroc a fait match nul.
Oui, ils s'inscrivent dans la durée, ils impriment une régularité à leurs résultats. Le Maroc est dans une excellente phase.
Ils ont changé de monde
depuis 4 ans.
Ils changent d'entraîneur, les résultats sont toujours là. Il y a une forme de... Les U20 sont champions du monde. Eux, il y a une forme de confiance qui est due au travail.
Donc, après, de là à être décontracté,
Pierre, je suis pas sûr qu'ils soient très décontractés.
Non, ils ont l'impression, mais je trouve qu'ils dégagent de la confiance. Mais peu importe, on va continuer sur le rapport de force entre la France et le Maroc dans un instant. Mais d'abord, on va prendre un peu l'ambiance auprès des supporters, puisque Camille Borin est à la fan zone de La Villette à Paris, en plein cagnard. Salut Camille.
Salut messieurs. Ouais, écoutez, bah là on est à La Villette. Il y a des transats installés, ça commence à se remplir tout doucement. Je suis avec Orion. Orion, c'est quoi ton pronom pour le match là? Comment tu le sens? T'es venu hyper en avance. Ça fait 2h30. T'es venu 2h30 avant le match. Comment tu te sens?
Ouais, salut Camille. Salut tout le monde. En vrai, on est super enthousiaste d'être là. On est arrivé 2h30 pour sécuriser les sièges. Et je pense qu'en vrai, c'est un peu le premier vrai challenge pour l'équipe de France. Et c'est un peu un remake de ce qu'il y a eu en 2022 pour les demi, mais vraiment, on est trop content d'être là et je suis trop content de voir l'équipe de France face à son gros challenge. Et je pense que ça va pas être un match de cochon comme face au Paraguay. Donc ça, je suis content de voir ça.
Vous êtes venus entre potes, donc il y a Maxime aussi. Maxime, c'est quoi ton pronostic? Est-ce qu'elle te fait peur, cette équipe du Maroc?
L'équipe du Maroc, c'est, comme l'a dit Orion, l'équipe, vraiment la première équipe phare qu'on va jouer. Pour moi, ce sera 3-1, mais j'attends de voir les compos quand même. On sait qu'il y a des doutes potentiellement en défense côté marocain. Donc 3-1 pour l'équipe de France, doublé de Mbappé et un but d'Olise pour son compteur but.
Allez les gars,
c'est parfait, on prend le 3-1. Merci Camille en direct de la fan zone de La Villette. Les clés du match, le rapport de force sur RMC dans l'after, c'est tout de suite. Et bien sûr, c'est avec vous au 32-16.